tous ce matin. Voilà, je retrouve des personnes que j'avais déjà vues, que je revois, puisque ce n'est pas la première fois que je reviens. Heureux d'être donc parmi vous, avec cette certitude, puisque nous sommes ici ce matin, une petite partie de l'Église universelle se rappelle. Là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu de vous. Voilà, le Seigneur est avec nous. Je vous invite à prier avec moi avant de poursuivre, avant de commencer. Seigneur, ta parole est la vérité. Nous ne sommes pas toujours prêts à l'écouter, nous ne sommes pas toujours prêts à la comprendre. Mais nous sommes en chemin et tu es à nos côtés. Nous réclamons ton aide. Sois avec nous. Amen. Donc, le texte qui fera l'objet de ma prédication se trouve dans le livre de Néhémie, au chapitre 8. Néhémie, chapitre 8. C'est un récit un peu long, mais enfin important. Alors, tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. On est à Jérusalem. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, la loi que le Seigneur avait instituée pour Israël. Esdras, le prêtre, apporta la loi devant toute l'assemblée, les hommes, les femmes et tous ceux qui pouvaient comprendre ce qu'ils entendaient. C'était le premier jour du septième mois. Il lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, devant la place qui est en face de la porte des eaux, en présence des hommes, des femmes et de tous ceux qui comprenaient. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, une fois, il est parlé d'Esdras le scribe, et une autre fois, Esdras le prêtre. C'est le même personnage. Esdras le scribe était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matitia, Shema, Anaya, Uri, Ilkiya et Maseja, et à sa gauche, Pedaya, Mishaël, Malkiya, Hashum, Asbadana, Zacharie et Melusham. Je suis arrivé. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il se trouvait plus haut que tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint debout. Esdras bénit le Seigneur, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, qu'il en soit ainsi. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, face contre terre. Josué, Bani, Sherevia, Yamin, Akoub, Shabtai, Odia, Maseya, Kelita, Azaria, Yozabad et Anan, Pelaya, et les Lévites faisaient comprendre la loi au peuple. Et le peuple restait debout. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Son Excellence Néhémie, Esdras, le prêtre scribe et les Lévites qui instruisaient le peuple dirent à tout le peuple : ce jour est sacré pour le Seigneur votre Dieu. Ne soyez pas dans le deuil et dans les pleurs, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit, « Allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces et envoyez des parts à ceux qui n'ont rien de prêt, car ce jour est sacré pour notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie du Seigneur est votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est sacré, ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des parts et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. L'événement se déroule un jour de fête. C'est, nous est-il dit, le premier jour du septième mois. Dans le calendrier juif, c'est le début de l'année. Mais surtout, le début d'une période bien spéciale. Une période qui est consacrée à la préparation de ce grand jour très solennel, Yom Kippour. Vous avez sans doute entendu parler, hein, le jour des expiations, le jour où le grand prêtre entre dans le temple pour intercéder auprès du peuple, pour le pardon du peuple. 10 jours après notre événement. Mais ce premier jour du septième mois de l'an 445 avant Jésus-Christ, c'est une date qui est restée dans les mémoires. On l'a encore aujourd'hui, puisque je le lis. Mais qui est restée longtemps dans les mémoires du peuple, dans sa vie. Une date qui, malgré quelques retournements de situation, est marquée par la joie du Seigneur. Et qui plus est, une joie qui donne de la force. Alors je commence en me demandant, mais une force, mais pourquoi? Et pourquoi en deux mots? La journée doit donc se dérouler comme il est prévu dans le Lévitique, par l'observation d'un sabbat, c'est-à-dire repos, personne ne travaille, avec bien sûr une partie cultuelle, puisqu'on lit la loi, où Esdras s'est invité à la lire, cette loi de Moïse. Le peuple vient d'achever la reconstruction des murailles de Jérusalem, et ce, en dépit de nombreux obstacles de toutes sortes. Eh bien, c'est une période un peu apaisée. Le peuple se sent à paix, en paix. Et puis c'est fait. Mais voilà, la lecture de ce texte, sans doute un peu oublié, sans doute tombé dans l'oubli, va tout bouleverser. Et la profonde tristesse qui tombe sur les auditeurs vient donc de cette lecture qui les éclaire sur ce qu'ils sont, qui agit sur eux comme un miroir. Et là, bien, ils se voient tels qu'ils sont. Et ils ont péché en négligeant leur Dieu. Leurs ancêtres s'étaient écartés des principes divins, ce qui leur avait valu un long exil à Babylone. Eh bien, eux, ils se rendent compte qu'à leur tour, ils n'ont pas fait mieux. Alors, pour un jour de fête, ça commence mal. Et après ce qu'ils viennent d'entendre, ils ne peuvent que manifester leur désarroi. Ils sont convaincus de leur péché. Et c'est là que Esdras leur ouvre les yeux sur autre chose. La joie du Seigneur. Une joie qui ne nie pas la réalité du péché, mais qui va pouvoir donner la force de repartir. La reconstruction de la nation n'est pas encore terminée. Il va falloir pour le peuple encore beaucoup de courage. Et surtout, la certitude que Dieu reste avec eux. Et c'est important. Donc, ce premier jour du septième mois va rester dans les mémoires pour encourager le peuple. Ce premier jour du septième mois, mais aussi pour les années et les décennies qui vont suivre. Comment le peuple a-t-il pu prendre courage? Comment a-t-il pu se relever? Alors, on a lu la loi durant toute la matinée, et c'est important. Mais ce que je veux souligner, c'est que l'auteur du récit, Néhémie, ou en tout cas, oui, c'est Néhémie qui a rédigé, même s'il y en a d'autres qui ont ajouté, lorsqu'on parle de Néhémie à la troisième personne, c'est quelqu'un d'autre. Néhémie insiste sur les conditions d'écoute. Et là, je vais citer d'abord le verset 2 où il est parlé des hommes et des femmes et de tous ceux qui pouvaient comprendre ce qu'ils entendaient. C'est-à-dire sans doute les enfants qui étaient en âge de comprendre. Mais comprendre, c'était important. Au verset 3, ça a raison, au verset 3, c'est dit à nouveau. Et en plus, avec cette mention supplémentaire, tout le peuple était attentif à la lecture du livre. Et puis au verset 8 encore, les Lévites lisaient distinctement et ils donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Allez, encore un verset, le dernier verset qui rajoute une couche. Ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. C'est beaucoup pour quand même un si petit texte. Tous les efforts sont faits pour que la loi soit bien comprise. Et chose intéressante, si dans un premier temps, tout le monde est abattu à l'écoute de la loi, c'est quand même cette même loi qui va permettre la joie du Seigneur. C'est ce que le dernier verset confirme. Tout le peuple s'en alla pour manger et boire et se livrer à de grandes réjouissances, etc., car ils avaient compris. La loi a deux usages, le pardon et bien sûr la grâce. Alors expliquer la loi le mieux possible en prenant le temps de lire tous les aspects. Ce jour-là, les prêtres et les lévites ont bien fait leur devoir, car avec la dénonciation du péché, il y a aussi dans la loi la mention du pardon et de l'amour de Dieu pour son peuple. C'est justement là que la grâce de Dieu prend toute sa valeur, toute sa saveur aussi, en face du poids qu'a fait ressentir la loi. C'est là que l'on prend le mieux conscience, je dirais, du prix de la grâce. Alors, résultat, à la fin, le prêtre Esdras n'a plus qu'à faire comme ça, donner en quelque sorte un coup de pouce. Arrêtez de pleurer. Réjouissez-vous. La joie du Seigneur est votre force. On a l'impression que le peuple avait seulement besoin de se l'entendre dire. Remarquable comme cette journée-là a pu se dérouler. Alors je voudrais à présent m'arrêter sur quelques mots, donner quelques mots sur la nature de cette joie. Ce jour-là, il y a plusieurs raisons de se réjouir. D'abord, en premier, celle d'avoir trouvé le pardon de Dieu, c'est évident. On peut aussi évoquer la joie grâce à ce que Dieu a fait dans un passé récent. On se trouve à ce moment-là quelques 80 ans après la première vague de retour de l'exil. Le temple a déjà été reconstruit. Et dans les sept dernières années, dans les sept derniers chapitres, le livre de Néhémie raconte la reconstruction des murs de Jérusalem. Une reconstruction au prix de nombreux obstacles à surmonter, de nombreux efforts et sacrifices en tout genre, mais avec toujours un secours infaillible de la part de Dieu. Alors, il y a cette satisfaction reconnaissante à l'égard de Dieu d'avoir retrouvé la paix sur sa terre. Un sentiment qui ne peut que conduire à des manifestations de reconnaissance et de joie. Autant de raisons de se réjouir que Dieu a permises. Ceci dit, il me semble qu'il y a quelque chose de plus. Quand Esdras parle de la joie du Seigneur, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi à comprendre la joie que le Seigneur éprouve lui-même, la joie de voir son peuple dans cette disposition, et bien sûr, joie qu'il veut partager. C'est peut-être un détail, mais j'ai l'impression que cette manière de comprendre dit quelque chose sur Dieu. D'ailleurs, on retrouve la même chose dans l'Évangile. Par exemple, lorsque Jésus évoque dans la parabole des talents l'accueil du serviteur fidèle, entre, il n'est pas dit « réjouis-toi », il y a « entre dans la joie de ton maître ». Ou encore, on le retrouve aussi dans la parabole du fils prodigue, où c'est le père qui décide de faire une fête et qui invite tout le monde à se réjouir. C'est avant tout la joie d'un père qu'il est parlé. Il n'est pas parlé de celle du fils. Alors le fils va sans doute se réjouir, mais c'est la joie du père. Alors qu'est-ce que ça dit sur Dieu ? Eh bien, que Dieu n'est pas un juge impassible, indifférent, qu'il est sensible au retour de son peuple et qu'il a été aussi sensible à sa misère lorsqu'il était dans l'exil, lorsqu'il était dans la souffrance, lorsque le peuple a eu toutes ses difficultés pour reconstruire Jérusalem. En entrant dans la joie du Seigneur, le peuple montre qu'il a bien compris, qu'il a bien pris conscience que Dieu est un père qui partage sa joie avec ses enfants, qu'il veut un autre type de relation que celui d'une relation juridique. Alors, ce premier jour du septième mois, c'est un grand jour pour le peuple, un jour pour lâcher prise devant cet appel que Dieu adresse, Dieu qui se réjouit du retour de son peuple vers lui. On peut le dire autrement, il n'y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Avant même la liturgie du calendrier religieux juif, si on lisait les chapitres qui suivent, on verrait qu'il y a deux chapitres de confession du péché du peuple. Mais avant même cette liturgie de calendrier, qui prévoit une semaine de jeûne en plus et de confession des péchés, il y a le rappel de ce que Dieu veut pour les siens, la joie. Le peuple a accepté d'entrer dans une telle démarche, même si elle ne lui était pas naturelle, ils étaient en train de pleurer tous, même si l'ambiance était au carême. Et ce n'était pas de l'autosuggestion, mais de la confiance, une sorte de lâcher prise. Et cette joie n'était pas exclusivement intérieure. L'exhortation n'est pas que spirituelle, elle n'invite pas seulement à un ravissement de l'âme. Allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs. Il ajoute douce. Pour ce qui nous concerne, Bien sûr, le Seigneur ne nous pousse pas à sauter de joie dans toutes les circonstances, et encore moins à simuler une joie que nous n'avons pas. Mais il nous invite à entrer dans une autre manière de vivre, d'agir et de voir les choses. Tout simplement, c'est un acte de confiance. C'est un acte de confiance qui nous appelle. Quand on a des problèmes, quand on se sent accablé, quand on se sent pécheur aussi, le premier réflexe est dans bien des cas de se recroqueviller sur toi, sur soi-même. Mais justement, au lieu de s'enfermer dans une atmosphère morose, pourquoi ne pas se rappeler cette dynamique différente, ce regard nouveau que le Seigneur peut donner. On peut annoncer la grâce, on peut dénoncer le péché, mais pour le dénoncer, ça n'a de valeur que si on sait qu'on va être pardonné. Et j'ajouterai aussi, dans l'épître de Paul aux Galates, la joie est fruit de l'esprit. De l'esprit, pas de nos efforts, de l'esprit. Elle est à recevoir avec ou sans mérite, avec ou sans sujet de joie particulier. Dieu communique sa joie, il importe seulement de l'accepter, au besoin de la lui demander. Pour Israël, c'était dans un temps liturgique. Pour nous, cela peut être le cas aussi, ou ça peut être aussi le cas dans un autre contexte, mais dans une démarche de confiance, en nous attendant avec patience à son secours, avec la certitude justement qu'il est à nos côtés, parce qu'il est notre Père. Même dans l'épreuve, cette patience permet de se réjouir. Le mot qui, dans notre lecture, est rendu par force, la joie sera votre force, peut vouloir dire aussi refuge. Bien sûr, ce que Dieu donne ne cache pas la réalité de la souffrance, mais paradoxalement, cela peut nous procurer quelque chose d'autre. Sans que nous ayons besoin de cacher nos faiblesses, sans que nous ayons besoin de chercher à prouver quoi que ce soit. Il suffit de répondre à l'invitation, comme l'a fait le peuple du temps de Néhémie. Notre assurance, c'est que le Seigneur nous aime, que nous pouvons nous réjouir avec lui. Sa joie sera notre force. Je vous invite à quelques moments dans le silence, dans le recueillement.